Voilà, nous continuons notre série sur l'évangélisation. Nous étions en train de parler des racines de l'évangélisation afin que nous soyons enracinés nous-mêmes dans la vérité de Dieu. Parce que on peut travailler d'une manière superficielle. Et quand il y a des difficultés, on s'arrête, on recule. Mais quand on est enraciné, quand on est dans la profondeur, on garde le cap. Quels que soient les problèmes qui peuvent advenir, on est toujours ferme parce qu'on est vraiment enraciné. Nous comprenons le souci de Dieu. Et nous voulions montrer depuis l'Ancien Testament quel était le souci de Dieu pour sauver les âmes, quelle était aussi la procédure qu'il employait, comment il faisait, et quelle était aussi la difficulté. On a pris des exemples pour montrer la difficulté à sauver un humain, le cœur humain, comment il était mauvais, et que c'était une vraie, un vrai combat face à la méchanceté quand on voulait sauver une âme. Donc l'homme a un cœur tortueux. Et on a pris des exemples dans l'Ancien Testament, que ce soit du temps de Noé, que ce soit du temps de la tour de Babel, pour montrer que l'évangélisation, c'est un vrai combat spirituel. C'est du sérieux, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc c'est. Et la dernière fois, donc, nous en étions arrivés à Moïse. Donc lorsque Dieu devait libérer son peuple Israël d'Égypte, on avait insisté sur le fait que le salut dépend de la soif du salut. On ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas soif. Et qui crée cette soif? C'est Dieu seul qui peut créer cette soif. Et donc on a ce verset de Jean 16, 8 qui dit que le Seigneur convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est cette forme, c'est cette soif-là qui est décrite dans ce verset-là. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire les gens vont ressentir le besoin d'être sauvés. Voilà. Ils vont ressentir la nécessité d'être sauvés. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut faire cela. Et c'est important, pourquoi? Parce que parfois, nous avons frappé au mauvais endroit parce que nous voulions faire les choses par la chair. Or, le Seigneur dit lui-même aussi dans Matthieu 11, 28 à 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, quelque part, le salut dépend de la charge que ressent quelqu'un. Si quelqu'un ne se sent pas chargé, si quelqu'un ne se sent pas dans le péché, c'est difficile. Une telle personne n'est pas encore prête au salut de Dieu. Et nous avons un très bon exemple dans le Nouveau Testament. Le jeune homme riche, quand il est venu voir Jésus, il n'était pas dans une vraie soif de salut. Il était dans une recherche de complément de salut. Donc il voulait que Jésus lui donne le détail en plus qui pouvait faire qu'il soit certain de son salut. Donc il devait se considérer déjà en ordre. Il voulait soit la confirmation juste par Jésus, soit un petit truc à faire en plus. Mais quand il vient face à Jésus, Jésus lui dit, vends tous tes biens et suis-moi. Il est bloqué. Il s'en retourne triste. Donc Jésus, par sa phrase, a créé la tristesse dans la personne afin que cette tristesse lui donne envie du vrai salut. Parce que quand il venait voir Jésus, il n'avait pas envie du vrai salut. Il avait envie d'une confirmation du fait qu'il soit juste. Il avait envie qu'on lui rajoute quelque chose en plus, mais il n'avait pas compris qu'il fallait que tout soit changé. La réponse du Seigneur va lui amener une tristesse qui allait par la suite le pousser à vouloir tout changer. Parce que le Seigneur veut le salut total, il ne veut pas le salut à moitié. Et donc on a insisté là-dessus, les enfants d'Israël ont crié à Dieu. C'est écrit dans l'Exode 2, ils ont crié. C'est parce qu'ils ont crié que Dieu dit à Moïse, maintenant je descends. Donc comprenons parfois que certaines situations difficiles qui vont arriver autour de nous, sur les personnes pour qui nous prions, sont des moyens que Dieu utilise pour produire cette conviction de péché, de justice et de jugement, cette soif d'être sauvé intégralement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être comme ça, comme le jeune homme riche, dans des positions de positions neutres ou bien des positions favorables. Tu parles de Dieu, il est d'accord. Il est d'accord, mais qui sont juste dans une logique de religion, une logique intellectuelle. Et de telles personnes, Dieu voudrait bien que nous prions pour qu'ils aient la vraie soif du salut qui amène un changement intégral, total. Et nous devons penser à cela, bien-aimés. Jésus ne s'est pas contenté de la parente bonne disposition du jeune homme riche pour dire « Ah bon, tu veux me suivre? Viens !» Non, Jésus lui a posé une condition qui était nécessaire pour apporter un salut total. Mais je pense que la façon dont beaucoup de mouvements fonctionnent aujourd'hui, beaucoup de chrétiens fonctionnent aujourd'hui, s'ils avaient rencontré le jeune homme riche, il lui aurait donné tout de suite un poste de responsabilité. Ils auraient tout de suite considéré cet homme comme quelqu'un qui sert Dieu. Mais Jésus lui a dit, il te reste une chose, vends tous tes biens et suis-moi. Donc Jésus, en posant cette question-là, il voulait ramener ce jeune homme à chercher le vrai et le salut total. Ça doit être notre souhait. Nous ne devons pas nous contenter d'un entourage qui est juste... oui, en disant oui, mais non, il faut vraiment qu'on cherche la profondeur dans toute personne qui nous entoure concernant le salut. Il ne faut pas qu'on reste dans une logique religieuse du moment que la personne vient à l'église, du moment que la personne prie. Non, nous devons chercher le salut intégral, une transformation totale de chaque personne autour de nous pour réellement dire ça, c'est un enfant de Dieu, ça, c'est un chrétien, c'est un sauvé. Donc, ça doit être notre souci. Comme Jésus a eu ce souci-là, parce que Jésus pouvait dire, ah ben, tu appliques les commandements, tu veux me suivre, allez, viens, on y va. Non, Jésus dit, il te reste une chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Parce que Jésus voulait le vrai salut dans la personne, le salut intégral. Et des fois, nous recevons dans le bureau des gens qui disent, je veux être baptisé ou bien je veux suivre le Seigneur. Si on se contente de ce genre de phrases, on dit « Ah ben c'est bien, bon, tu suis » ou bien « Dimanche prochain, on passe au baptême ». Non, on ne s'en contente pas. On dit « Est-ce que tu comprends qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu entends lorsque tu dis que tu veux suivre le Seigneur ?» Pourquoi, moi je pose aux gens la question, mais pourquoi tu veux te faire baptiser ? Pourquoi ? Parce qu'il faut que la personne sache dans quoi il s'embarque. Et donc il faut qu'on soit clair en tant qu'interlocuteur de ces personnes-là pour leur dire ça voudrait dire que tu es mort là, tu vas mourir et le Seigneur va prendre tout le contrôle. Donc c'est fini avec la vie de péché, c'est fini avec la cigarette, c'est fini avec le copinage, c'est fini avec le mensonge. Il faut comprendre que maintenant Dieu veut prendre le contrôle, ce n'est plus toi qui vas décider, c'est Jésus qui va décider. Veux-tu toujours te faire baptiser dans ces conditions-là? Si la personne est sincère, va dire alors qu'elle n'est pas bien vraie, elle n'était pas au courant de tout ça, elle va dire, laissez-moi encore réfléchir. Après, il y a toujours des gens qui disent, oui, je suis toujours d'accord, mais qui en réalité, le font parce qu'ils avaient déjà fait un pas, mais ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on veut avoir l'assurance que la personne a bien compris il s'agit de quoi. Et d'ailleurs, le frère Gilbert, qui est responsable à l'église au Congo, Il m'a dit qu'il avait reçu justement une fille, une jeune fille, qui était venue une fois, comme, deux fois comme ça, ou une fois dans les réunions. Et il lui a parlé du Seigneur, la fille était d'accord. Et maintenant, quand il est parti en profondeur pour dire, mais il faut comprendre, quand tu dis tu es d'accord, ça veut dire que le mensonge, il faut arrêter, ça veut dire qu'il faut vivre de telle manière, il faut laisser le Seigneur prendre tout le contrôle. La fille a été honnête pour dire, je ne suis pas prête encore par rapport à ça. Voilà. Ça, c'est bien. Il faut que les gens soient honnêtes, il faut que le salut soit total. Et une semaine après, la fille revient pour dire, quand je t'ai dit que je n'étais pas d'accord, je n'ai pas dormi toute la nuit, j'ai été perturbé par Dieu. Et aujourd'hui, je viens te voir pour te dire, maintenant je suis prêt à suivre Dieu totalement, à renoncer à mon passé, à renoncer à tout et à suivre. Voilà, sans forcer. C'est-à-dire que la personne elle-même, voilà, comprend qu'il faut un salut total. Il ne suffit pas de venir comme ça, de dire le nom de Jésus, mais il faut que toute la vie soit prise en charge par le Seigneur. Donc, il faut comprendre, et c'est ça qui amènera des cris, parce que quand on veut vraiment que sa vie soit changée, on se rend compte que ça va être un travail tellement immense que soi-même, on ne peut pas le faire. Donc, on crie à Dieu. Voilà. C'est là qu'on crie, Seigneur, viens à mon secours. Donc, quand quelqu'un ne crie pas, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris le véritable salut. Donc, il croit qu'il se sauve lui-même. Mais quelqu'un qui a bien compris c'est quoi le salut, qui a bien compris ce que nous devions être, une telle personne va crier pour dire, je ne peux pas moi-même, Seigneur, sauve-moi. Voilà. Il va crier. Or, le jeune homme riche venait tranquillement poser son problème, tranquillement. Donc, il semblait maîtriser la situation. Mais quelqu'un qui a vraiment compris le salut va crier parce qu'il se sent perdu. Oui.
Oui, quand tu dis que... Des fois on force, peut-être que la personne n'a pas encore été touchée,
n'est pas encore prête à tout lâcher.
Non, au début, quand tu as commencé, je ne me rappelle plus, parce que le Saint-Esprit est déjà en train de convaincre le monde. Donc une personne qui, la personne ne va pas, parce que les personnes, des gens peuvent peut-être avoir des raisons de dire que, bon, moi je n'ai pas encore été convaincu, donc voilà.
Donc si quelqu'un dit qu'il n'est pas convaincu, on laisse la personne.
Mais c'est une vraie raison, parce que le Saint-Esprit est déjà en train de convaincre le monde de péché, de justice. Quand la personne entend une parole, la personne entend une prédication, c'est que Dieu est déjà en train de parler. C'est...
Ah, donc on laisse Dieu continuer à parler.
Donc c'est pas une raison quand la personne dit que non, moi j'attends que le Saint-Esprit me convainc.
Il ne connaît pas encore le Saint-Esprit. Il va dire, je ne suis pas encore convaincu. Voilà.
Mais c'est vrai ça.
Ah oui, il y a des gens qui ne sont pas encore convaincus.
Malgré la prédication, malgré tout ce que la personne fait
entendre. Nous, on ne peut pas mesurer ça. Ça, c'est le domaine de Dieu.
Donc, nous, quand la Bible dit que quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est quand on entend quelque...
Mais c'est le conseil de la Bible. Donc, quand on entend la voix de Dieu, il ne faut pas endurcir nos cœurs. Mais maintenant, il y a des gens qui endurcissent toujours. Donc, on ne va pas dire que c'est fini pour eux.
Non, ce n'est pas fini, mais c'est une fausse raison. Parce que quand on entend la voix de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit nous a déjà convaincus. Il a déjà...
Ça, seul Dieu peut juger ça. Seul Dieu peut savoir que j'ai parlé suffisamment pour que cette personne lâche, elle ne veut pas lâcher. Voilà. Seul Dieu peut dire cela avec précision. Nous, on peut supposer, mais seul Dieu connaît avec précision tout cela. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu la fois passée, insister sur le fait que le vrai salut est précédé d'un cri du cœur. Lorsqu'il n'y a pas ce cri-là, s'il n'y a pas le vrai salut. C'est juste de la religion. Voilà. Parce qu'un homme, face à la divinité, à la pureté de Dieu, à la bonté de Dieu, face aux exigences d'amour de Dieu, va se sentir incapable, va se sentir faible et va vouloir que Dieu l'aide. Voilà. Mais quand quelqu'un il se sent plus ou moins capable et il veut juste un peu de sucre glace en plus, voilà, là... En général, ce n'est pas le vrai salut. Et on finit avec le temps constater que réellement cette personne n'était pas convertie, c'était une forme de sympathie, voilà, une forme d'adhésion sans transformation intégrale qui est toujours précédée d'un cri du cœur. Voilà, c'est ce qui s'est passé donc dans Exode. Le Seigneur a dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Donc nous devons, par notre comportement et par notre langage, amener et par notre parole aussi, amener les gens à crier vers Dieu. Voilà, amener les gens à avoir soif du vrai salut, soif du vrai Dieu, et ne pas rester dans la superficie. C'est ainsi que l'action du Saint-Esprit est puissante quand les gens ont vraiment soif de Dieu, et ce n'est pas juste de la religion ou de la peinture. Voilà. Et il y a une autre chose qu'on avait vue aussi la fois passée, c'était la faiblesse de l'instrument de Dieu. Donc Moïse, que Dieu envoie pour libérer les enfants de Dieu, se sentait incapable. D'ailleurs, il a dit lui-même, est-ce qu'ils accepteront que moi je viens de toi? Et on avait expliqué que en tant qu'outil de Dieu, instrument de Dieu, on va se sentir incapable, on va se sentir faible vis-à-vis de la tâche. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait dans le bureau, et puis j'en ai déjà parlé avec des frères et sœurs. On ne devrait pas dire, tiens, pour telle personne, c'est difficile qu'ils se convertissent. Parce que c'est un domaine qui regarde Dieu. Dieu est tout puissant pour toucher qui il veut. Et nous, on doit se contenter d'être un instrument. Donc, on ne doit pas avoir des préjugés sur la conversion des gens. Et Moïse avait des préjugés sur lui-même et sur le fait que les enfants d'Israël veuillent bien être libérés. Il avait des préjugés et il était bloqué au début. Et nous devons éviter cela. Ce que Dieu attend, il attend de nous que nous soyons des instruments disposés à obéir à sa voix, disposés à être faibles et laisser la puissance de Dieu agir. Donc, d'où la notion de sacrifice dont nous avions parlé la fois passée. Donc, quand nous acceptons d'être sacrifiés, c'est là que Dieu peut toucher les autres personnes. Et Moïse a accepté d'être sacrifié en quelque sorte, parce que aller voir Pharaon juste avec un bâton pour lui dire libère le peuple de Dieu, c'était une forme de sacrifice, parce que c'est comme si aujourd'hui tu allais devant le président des États-Unis avec un bâton pour dire libère tel pays, laisse tel pays, quitter l'Irak, quitter l'Afghanistan. Sinon, des problèmes vont vous arriver. Donc, on t'arrête même sur le champ comme terroriste. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, Moïse allait vers sa mort, en quelque sorte, en allant libérer les enfants d'Israël. Donc, nous, quelque part, lorsque nous allons dans l'évangélisation, c'est comme si nous allons vers l'humiliation, c'est la mort. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, on ne va pas nous tuer physiquement partout. Quoique, il y a des endroits où on peut être tué, mais aller à l'évangélisation, c'est aller vers des moqueries, aller vers l'incompréhension. C'est une forme de mort. Donc, tu vas dans quelque chose, le résultat ne dépend pas de toi. Même si tu étais éloquent, ça ne dépend pas de toi. C'est juste agir par obéissance, c'est une forme de mort. Et c'est par ce sacrifice-là que Dieu agit. C'est très important, la notion de sacrifice. Ce n'est pas par la force de l'homme, mais c'est par le fait que l'homme s'abandonne que Dieu agit. Donc c'est une notion que nous devons intégrer. Beaucoup de gens cherchent des outils les meilleurs pour pouvoir évangéliser, mais ils ne s'occupent pas de leur état d'offrande. Pour sauver les âmes, il faut être soi-même une offrande. Il y a des gens qui ont donné leur vie d'une manière physique. Donc, on parle de Jackie Pullinger, donc cette fille de 23 ans qui va à Hong Kong dans la cité interdite. Voilà, elle a donné presque 25 ans de sa vie. Bon, j'ai appris plus tard qu'elle s'est mariée peut-être vers 45 ans, 46 ans. Mais donc, elle a donné 25 ans de sa vie pour... je crois qu'elle s'est mariée au moment où elle ne pouvait même pas avoir des enfants. Donc, 25 ans de ta vie, tu donnes ça en offrande. Et le Seigneur a fait des... Cette organisation continue jusqu'à aujourd'hui. Il a fait des choses puissantes parce qu'il y a eu une offrande qui était là. Un sacrifice qui était là. Et Moïse était comme une offrande en allant affronter le Pharaon. Et le Seigneur a libéré le peuple d'Israël. Et nous allons lire maintenant Exode 12 qui confirme cette notion de sacrifice. Exode 12. Nous sommes à la dernière phase de la libération des enfants d'Israël d'Égypte. Moïse a fait plusieurs miracles pour que Pharaon cède. Pharaon n'a pas cédé. Et nous sommes au dernier miracle. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Voilà, le Seigneur dit, vous conserverez le souvenir de cette fête. C'est un héritage pour nous. Donc, pourquoi conserver le souvenir de cette fête? Parce qu'à travers le sacrifice de l'agneau, Dieu nous apprend des vérités immenses, éternelles. Il sauve par le sacrifice. Il sauve par le sacrifice. Avant d'en arriver là, qu'est-ce que Moïse n'a pas fait pour que Pharaon laisse les enfants d'Israël partir? Il a fait toutes sortes de miracles. Transformer le Nil en sang, faire pleuvoir des grenouilles, des sauterelles. Il a fait cracher du feu, de la grêle du ciel est tombée. Malgré tout ça, Pharaon n'a pas laissé libérer les enfants d'Israël. Ça nous apprend quoi? Que le diable ne lâchera pas facilement les âmes. Il ne lâchera pas facilement. C'est un combat spirituel. D'où l'importance de la prière. On ne va pas évangéliser comme si c'était une lutte intellectuelle. Ce n'est pas une lutte philosophique. C'est un combat spirituel. Satan ne lâchera pas facilement les âmes. Donc on doit le combattre dans la prière et parler physiquement après. C'est très important. Et Moïse a fait 9 miracles immenses jusqu'à éteindre, à produire les ténèbres, donc à éteindre le soleil, à produire les ténèbres sur toute l'Égypte. Malgré ça, Pharaon ne les a pas lâchés. Alors Dieu nous donne la clé. En dernière minute, il dit à Moïse, maintenant, vous devez tuer des agneaux et mettre le sang sur la porte. Moi, je jugerai l'Égypte, je vais tuer tous les premiers-nés égyptiens. Normalement, vous tous, vous devez mourir, mais puisque vous aurez le sang sur les linteaux de vos portes, je ne toucherai pas à vos premiers-nés. Voilà comment, finalement, Pharaon lâche lorsque le sacrifice de l'agneau est fait, il lâche prise. Parce que ses fils à lui vont être tués, les fils d'Égypte vont être tués. Pharaon va lâcher prise en ce moment-là. Ça nous apprend encore une autre chose, c'est que le salut vient toujours avec le jugement. On l'a dit avec Noé, il y a eu le jugement et le salut en même temps. Avec l'autre, Sodome et Gomorre, il y a eu le jugement et le salut en même temps. Donc, sachons-le, le salut et le jugement vont toujours ensemble. Ça va toujours ensemble. Quand Dieu te sauve, c'est qu'il a jugé quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il te bloquait, quelqu'un d'autre qui empêchait cela. Il va être jugé, ça va ensemble. Et donc, c'est ce qui s'est passé là avec les enfants d'Israël. Donc, en même temps que Dieu les sauve, il juge l'Égypte, il frappe les premiers-nés égyptiens. Ça va ensemble. Que personne ne nous trompe un jour pour nous faire croire qu'il n'y a que le salut. Et que l'enfer, c'est trop dur pour que ça soit vrai. C'est vrai. Si le salut est extraordinaire, c'est-à-dire des milliards et des milliards d'années, dans des années, même les milliards sont petits, des années éternelles, sachons que l'opposé est aussi dur. Donc des années éternelles dans la souffrance, c'est une réalité. Donc en même temps qu'il sauvait le premier-né juif, le premier-né égyptien était frappé. Le salut va ensemble avec le jugement. Mais le salut est venu comment? C'est par le sacrifice de l'agneau. Ça, c'est très important qu'on retienne cela. Dieu ne cherche pas des cicérons, donc des grands orateurs. Il cherche des gens qui vont livrer leur vie pour le salut des autres. Qui ne vont plus tenir compte de leur vie, mais qui vont dire, je mets ma vie entre les mains de Dieu, je l'abandonne afin que Dieu puisse sauver d'autres personnes qui vont vivre pour cela. Ce sont ces personnes que Dieu va utiliser puissamment pour sauver. Ce n'est pas comme certains pensent les miracles. Quand les apôtres ont réclamé les miracles, ce n'était pas pour sauver les gens. C'était afin que les gens voient que Dieu est grand. Donc, ils visaient l'honneur de Dieu. Mais le salut vient de l'amour de Dieu. Le salut vient de l'offrande de Dieu. Parce que c'est cette offrande-là qui couvre le péché des mauvais. Donc quand un homme se livre pour les mauvais, Dieu oublie que ces gens-là sont mauvais. Parce que l'homme bon s'est livré pour eux. Donc c'est comme ça que ça se passe. Si nous voulons le salut des musulmans, nous voulons le salut d'un tel, mais il faut qu'on soit prêt à nous livrer. Parce qu'on voit des gens qui, en même temps, veulent le salut des membres de leur famille et détestent les membres de leur famille. Ça ne peut pas marcher. En même temps, ils veulent le salut des Arabes et celui des musulmans. Ah, moi, je ne supporte pas les Arabes. Mais comment, toi, après, tu veux qu'ils soient sauvés? Donc, ce n'est pas possible. Donc, le salut ne vient que lorsqu'on peut s'offrir pour quelqu'un. On peut s'offrir pour les personnes que nous voulons voir être sauvées. Donc, il faut avoir une attitude d'offrande, de sacrifice. Et cet exemple-là, l'agneau est livré, le sacrifice est fait. C'est ainsi que le salut a été rendu possible, parce que l'agneau symbolise l'innocence. L'innocence a été livrée en faveur des mauvais, et ainsi le salut a été possible. Oui.
Oui, pasteur, concrètement, au jour d'aujourd'hui, comment ça peut se manifester, cette offrande ?
Concrètement, c'est à travers une attitude d'amour pour les mauvais, pour les gens que nous voulons sauver, une attitude de prière, c'est-à-dire que tu mets ça en priorité dans tes réflexions, dans tes décisions, dans tes prises de décisions. C'est le salut des âmes qui vient en premier. Donc dans ta façon de fonctionner, tu fonctionnes d'abord en priorité dans ce sens. C'est ça le sacrifice, c'est-à-dire que tu penses, tu t'oublies pour la cause. Voilà, donc il y a la prière, il y a la façon de mettre son temps pour que cette cause-là arrive. Tout le monde ne va pas parler. Il y a des gens qui vont mettre des moyens, mais ces moyens-là sont des sacrifices. Ce n'est pas des moyens parce que c'est du superflu. Mais c'est des sacrifices pour que la cause du salut des âmes avance. Donc, quelque part, à chaque fois qu'ils vont faire ces choses-là, il y aura une sorte de mort personnelle, mais ils le font pour le salut des âmes. C'est aussi savoir supporter ces personnes-là, donc que nous voulons voir sauver, les supporter dans leur méchanceté. Voilà, tout ça, c'est des sacrifices donc, qu'on fait pour le salut des personnes. Donc, il faut qu'on n'existe plus afin que cette cause-là puisse aboutir. Donc c'est ça, concrètement, ce que je peux dire, comment on use de nos moyens financiers, de nos moyens matériels, tout ça doit aller ensemble avec tout ça. Parce que quand je parle de Jackie, finalement, dans sa maison, elle a commencé à habiter avec certaines personnes qui étaient sauvées. Et Dieu l'utilisait puissamment. Alors que les missionnaires qui étaient bien établis à Hong Kong, dans des beaux bâtiments, eux, ils ne pouvaient surtout pas se mélanger avec les Chinois. Et voilà, ils restaient loin du salut. Mais une seule jeune fille qui accepte de tels sacrifices arrive à sauver plus que des missions, des grands bâtiments établis, mais elle était toute seule. Et Dieu l'utilise puissamment parce qu'elle a offert sa vie. C'est-à-dire qu'elle vivait avec eux, elle allait donner des cours. Le salaire était utilisé pour tout ça. Donc cette offrande-là a produit un grand miracle dans un endroit qu'on appelle cité interdite. Donc un endroit de voyous, de toxicomanes, de proxénètes, de drogués. Mais ils se sont convertis parce qu'il y a une offrande qui était là. Voilà, c'est très important de comprendre ces choses-là. Ce n'est pas, on peut toujours, je ne suis pas contre les moyens, hein. On peut utiliser les moyens, mais c'est notre attitude, notre comportement d'offrande qui est le moyen le plus élevé. Moïse, qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme miracle ? Vous le connaissez, vous savez le miracle que Moïse a fait. Extraordinaire, mais ça n'a pas suffi. Mais c'est quand le sacrifice de l'agneau est venu. Et pourquoi Dieu dit, il faut que vous vous en souveniez ? Mais parce que c'est la clé de tout. À perpétuité, parce qu'il savait que le vrai sacrifice allait venir, le sacrifice de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc il voulait qu'on se souvienne de la clé du salut, c'est le sacrifice de l'agneau. Maintenant, le sacrifice de l'agneau a été déjà fait. Nous sommes, comme Paul dit dans un verset, il dit, je vais achever en moi les souffrances de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que Christ n'a pas achevé. Non, ça veut dire que les souffrances de Christ doivent se répéter en tous les chrétiens. Et dans la répétition chez Paul, ce n'était pas encore achevé. Il dit, j'achève. Voilà, donc les souffrances de Christ, la façon que Christ a géré sa vie pour sauver, eh bien, ça doit se répéter dans chaque chrétien. Paul dit, je vais achever à mon tour les souffrances de Christ dans ma vie. Et ça va produire le salut.
D'accord. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui nous énerve ou qu'on a du mal à supporter, il faut d'abord qu'on prie pour manifester l'amour avant de prier pour son salut.
Non, on prie pour son salut en même temps et nous manifestons l'amour vis-à-vis de cette personne-là. Il faut que ça aille ensemble. Il faut qu'on s'offre. C'est ça la clé du salut. Oui.
Pasteur, s'offrir, cela veut dire accepter les compromis aussi.
Pourquoi ?
Parce que si une personne qui a une mauvaise vie ou soit un voleur, tu dis bon, pour l'amour, pour son salut, pour voilà comme Jésus il est mort pour lui, il faut que je puisse l'aimer comme ça, il faut que j'accepte ce qu'il fait, j'ai pris pour lui en même
non,
temps.
Non, j'accepte pas ce qu'il fait, je l'accepte lui.
Mais je peux pas faire voilà, je vais aller manger avec lui, je vais vivre avec
lui. On n'a pas dit ça. On a dit par exemple si tu il est pécheur, tu l'aimes, mais on n'a pas dit que tu profites des biens qu'il vole ou non pas du tout. Tu manifestes l'amour. Un exemple, tu apprends que il a volé quelque part, on l'a tapé tellement qu'il est KO et il se meurt petit à petit. Ah, mais c'est un voleur, il a eu ce qu'il voulait, non? L'amour veut que tu le prennes, tu l'amènes à l'hôpital.
Oui, pasteur, mais je suis dans le même sens que toi, mais je me dis que non, ben, il y a des fois, nous, on se comporte... Bon, j'ai dit, mon cas personnellement, il y a des fois, j'ai mes breaks, j'ai dit la personne, je vais prier pour lui, mais ça ne sert à rien que je m'approche, ça ne sert à rien que je mange avec lui.
C'est mais nous, on n'a pas dit qu'il fallait manger avec...
Oui, mais le fait de dire... quand tu as donné l'exemple des Arabes, quelqu'un qui n'aime pas les musulmans, qui n'aime pas leur façon de faire, quand il voit un Arabe sur la route, il dit « Ah ben tiens, les gens là m'énervent, mais j'ai prié pour eux. » Mais dans mon cœur, ça ne m'empêche pas charnellement de dire qu'ils m'énervent.
Ah ben donc ça annule la prière.
D'accord.
Ça annule la prière. Voilà, on ne peut pas être énervé en même temps prier pour quelqu'un. Ça annule la prière. C'est pourquoi on entend certains pasteurs qui maudissent les gens. Mais on ne peut pas maudire en même temps vouloir sauver les gens. C'est une contradiction. Voilà. On doit être toujours dans l'attitude d'amour.
Tout ce que la chair peut nous pousser à dire, quoi. On se retient, en fait.
Non. Oui, voilà, on résiste à la chair. On dit, c'est pas, je me repens, Seigneur, je refuse ça. Ce sont des créatures que tu as... Que tu as faite, moi je veux que tu me donnes l'amour pour eux. Il faut qu'on soit honnête. On ne doit pas se concentrer pour produire l'amour. Donc on dit, Seigneur, je sens que mon cœur est encore noir vis-à-vis d'eux. Purifie-moi, donne-moi l'amour pour eux. Il faut être honnête.
C'est pareil pour les membres de nos familles. On prie toujours pour eux, même s'il n'y a pas vraiment de proximité par rapport à eux.
On ne peut pas faire les mêmes choses ensemble du moment que certaines choses qu'ils font sont contraires à la parole de Dieu. Mais on garde l'amour. Quand quelqu'un souffre, on lui vient en aide. Quand quelqu'un a besoin de nous, on l'aide. Il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas marcher ensemble puisqu'on n'a pas la même logique.
D'accord.
Voilà. Donc là, Moïse fait sortir les enfants d'Israël. Donc comme on a vu que c'était pas facile, c'était difficile. Voilà l'enseignement qu'on en tire. C'était très difficile, mais ce qui a clôturé tout, c'est le sacrifice de l'agneau. Le sacrifice de l'agneau a fait que Dieu mette fin à tout ça. Oui.
Est-ce que pour la personne qui est-ce qu'on peut être rempli des fruits de l'esprit tous les jours?
Oui, oui.
Bon, cette personne a la facilité de s'offrir.
Oui, oui.
D'accord. C'est ce que je voulais savoir.
Ok. Voilà. Mais bon, maintenant, le Seigneur permet qu'on lise la parole pour que on comprenne son processus de travail. Voilà. Parce qu'on peut insister sur un côté, alors on se trompe. Moi, je vois beaucoup de gens penser que si on avait les miracles, extraordinaire, c'est là que vraiment on convertirait beaucoup de personnes. C'est une grosse erreur. Parce que Jésus a fait des miracles plus que tout le monde. Mais à la fin, les gens ont dit « crucifiez-le ». Voilà, la majorité a dit « crucifiez-le ». Oui.
Si on prend le cas de la fille qui était partie vivre à Hong Kong, elle vivait avec les drogués.
Elle vivait
avec les drogués.
Après leur conversion.
Ah, c'était juste après la conversion.
Ah oui, oui. Parce qu'ils vont habiter où? Donc, elle le prenait chez elle.
D'accord.
Mais pas tous, hein. Donc, il y avait un minimum. Hein. Voilà, donc elle prenait un certain nombre. Et puis bon, après, Dieu a envoyé un couple américain pour l'aider. Et eux aussi prenaient un peu.
D'accord.
Pasteur, moi, ma question, c'est par rapport à l'endurcissement du cœur de Pharaon, où Dieu lui-même endurcissait encore le cœur de Pharaon pour lui frapper. Pourquoi Dieu voulait encore endurcir encore le cœur de Pharaon?
Parce que pour que Dieu juge, il faut qu'il ait une justification. Parce qu'il sait que nous sommes témoins de ses actes. Et étant témoins de ses actes, il veut que son jugement corresponde à ce que visiblement quelqu'un a fait. Dieu connaissait le cœur de Pharaon, que c'était un cœur mauvais et qui normalement méritait son jugement. Mais nous, les humains, nous ne pouvons pas voir le cœur de quelqu'un. C'est Dieu qui voit et qui décide d'un jugement. Maintenant, pour que nous, on comprenne que Dieu ne se trompe pas, il permet que nous voyions la résistance de cette personne-là, nous voyons son mauvais comportement, alors il va donner l'impression à cette personne-là qu'elle est forte. Pour bien exprimer son comportement. C'est ça, entêter Pharaon, c'est ça, endurcir Pharaon. C'est-à-dire, il te donne l'impression que tu es fort. Et comme tu te crois fort, tu n'as peur de personne, donc tu t'exprimes. Et là, tout le monde voit, ah, c'est vraiment un mauvais. Mais parce que beaucoup, quoi qu'étant mauvais, se cachent. Pourquoi ils se cachent? Parce qu'ils se sentent faibles dans leur méchanceté. Alors, ils cachent ça. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne au méchant l'impression qu'il est fort. Il est le plus beau, le plus intelligent. Et que personne ne pourra contredire cela. C'est tellement évident qu'il est le plus fort. Et dans cette erreur-là, il permet ça pour que le méchant sorte vraiment clairement sa méchanceté afin que ça soit vu de tous. Et quand son jugement tombe, nous tous, on reconnaît que Dieu a raison. Voilà.
Mais pourquoi il n'a pas frappé Pharaon seul, il a voulu frapper tous les premiers-nés de l'Égypte?
Parce qu'il était le roi d'Égypte et que c'est toute une nation qui s'opposait au départ des enfants d'Israël. Parce qu'on voit que Pharaon, il y a des moments où il voulait laisser partir, mais après il changeait. Nous connaissons un peu le fonctionnement des cours. Parfois, tu veux prendre une décision, tel conseiller dit non, il y a tel conseiller, tel ministre. Après, le président change encore. Donc, c'était toute une nation qui s'opposait finalement. Ce n'était pas seulement Pharaon, quoi. C'était l'affaire de tout un pays. Donc, c'est cela, bien-aimé. Cet épisode nous apprend que Satan ne veut pas lâcher les âmes. Et c'est très bien les miracles parce que ça montre la gloire de Dieu, ça montre qui est Dieu. Mais le salut est obtenu par le sacrifice. Donc c'est le sacrifice qui fait que finalement les âmes sont sauvées. Nous devons y penser. Nous avons des gens comme le frère André qui ont compris ça. Oui.
Oui, pasteur, quand Satan ne veut pas lâcher, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de pouvoir corriger, que le Seigneur veut corriger la personne qui est à lui, corrigée, purifiée? Parce que si c'était trop facile, il y aura beaucoup de choses.
Non, Satan déjà ne veut pas lâcher de son côté. Mais le Seigneur peut le... Oui, comme tu dis, si le Seigneur prolonge parfois, c'est parce qu'il veut en même temps aussi nous purifier. Parce qu'on ne croit pas que la force vient de nous. Ouais. Qu'on comprenne que la force vient de lui. Et surtout qu'on comprenne que ce n'est pas par une force visible que nous obtenons des résultats. C'est vraiment par sa grâce et par son amour. Parce que sinon, on va dire, on a organisé telle chose. Et voilà ce qu'on a obtenu. Donc le Seigneur va permettre que, malgré notre organisation, on ait, un résultat menu, petit résultat, afin qu'on comprenne que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui transforme. Ce qui est important, ce n'est pas notre organisation. Ce qui est important, c'est nos cœurs. Comment sont nos cœurs sont disposés par rapport aux âmes. C'est ça qui est important pour le Seigneur. Donc, mais l'organisation, ce n'est pas négatif, mais chaque chose a sa place. D'abord, le cœur et l'organisation, c'est pour aider les humains à être efficaces dans leur travail. Mais ce qui touche finalement les cœurs, c'est le sacrifice, l'offrande. Et le Seigneur nous résume ça dans Jean 12, 24. Jean 12, 24. Il est écrit ceci dans Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce verset résume l'évangélisation. Beaucoup de fruits là, c'est quoi? C'est d'autres enfants de Dieu. Donc si un enfant de Dieu reste dans son égoïsme, seul, il pense qu'à lui. Toutes ses prières tournent autour de lui. Tous ses projets tournent autour de lui. Mais il va rester seul, brillant pour ce monde, mais aucun résultat dans la multiplication des âmes. Mais s'il accepte d'être semé, s'oublier lui-même, il va porter beaucoup de fruits. Voilà la clé de l'évangélisation, s'offrir afin de porter beaucoup de fruits. Quand quelqu'un s'offre pour sa famille, il s'offre pour son quartier, il s'offre, le Seigneur va utiliser cette personne pour porter beaucoup de fruits. Il s'offre entre les mains du Seigneur parce que parfois on ne sait pas ce qu'on a à faire, mais on se dit « je m'offre ». Et comme le Seigneur l'avait dit au monsieur qui avait enterré son talent, il avait dit, mais tu aurais dû donner ça au banquier. Donc, il y a des moments où certains ne savent pas que faire avec le Seigneur, mais ils voient une œuvre qui est claire dans son fonctionnement de salut. Ils s'associent à cette œuvre-là. Ils s'offrent dedans pour que le Seigneur utilise tout ça pour sa gloire. Donc, aujourd'hui, si des organisations comme Portes Ouvertes et bien d'autres ont apporté beaucoup de salut à travers l'humanité, c'est parce qu'il y a des gens qui n'allaient pas voyager, aller au Cambodge, aller en Algérie, aller dans ces pays-là, mais qui ont contribué comme des offrandes par leur temps, leur bénévolat, leurs moyens matériels, en sacrifice pour que les âmes soient touchées. Et Dieu agit. Et au dernier jour, nous, que ce soit les gens qui étaient au front, que ce soit les gens qui ont contribué pour qu'ils aillent au front, ils auront la même récompense. Tout ça, c'est des sacrifices, afin que, des offrandes, afin que le Seigneur sauve les humains. Donc, nous avons chacun notre contribution qui est une offrande que le Seigneur attend pour pouvoir sauver les mauvais. C'est très important de garder cela, Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Seigneur nous a sauvés par sa mort à la croix. Il a fait beaucoup de miracles, mais c'est sa crucifixion à la croix qui est l'origine de notre salut. Parce que c'est sa crucifixion qui produit le pardon, qui ouvre la porte au salut, mais en même temps qui ouvre la porte aussi au jugement. Voilà, comme on a vu pour le sang de l'agneau. Ça a ouvert la porte au salut, mais ça a ouvert aussi la porte au jugement. Ça va ensemble, parce que quiconque méprise l'agneau de Dieu, il tombe sous le jugement de Dieu. Quiconque méprise le système de Dieu, qui est de sauver par amour et par le sacrifice, va tomber sur le jugement parce qu'il va se croire bon par lui-même, par ses propres efforts, il va échouer. Voilà, il faut rester dans cette simplicité-là de fonctionnement où on compte sur le sacrifice du Seigneur, on compte sur notre tristesse, au lieu de compter sur nos forces. Mais il faut compter sur sa tristesse. David, quand il était chassé du royaume, il a dit, bon, il pouvait se battre. Les amis l'ont encouragé à tuer Shimei. Il a dit, non. Je préfère être triste. Et dans ma tristesse, Dieu agira pour me redonner la royauté. Et c'est le même raisonnement que nous devons employer par rapport aux âmes. Concentrons-nous sur notre cœur pour manifester notre tristesse à Dieu de voir les âmes non sauvées à travers la prière, à travers les sacrifices qu'on peut faire pour dire, Seigneur, moi je ne peux pas aller au Bangladesh, mais voilà ce que je fais pour soutenir l'œuvre que tu amènes de salut au Bangladesh. Voilà. Quand on est dans ça, dans cette tristesse-là, le Seigneur voit qu'on n'est pas bien parce que les âmes ne sont pas sauvées. À cause de cet état-là, il touche les gens et il les sauve. C'est ça le fonctionnement. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on parle. Ça n'empêche pas qu'on ait des arguments dans les échanges pour l'évangélisation. Ça n'empêche pas tout cela, mais que chaque chose soit mise à sa place. Voilà. C'est notre état qui compte plus que tout. Notre état d'amour, notre état... Voilà, d'attachement au salut des humains, c'est cet état-là qui compte plus que tout. C'est vraiment ça que nous devons veiller sur ça. Donc, nous qui sommes engagés dans l'évangélisation, nous devons vraiment regarder à nos cœurs, à chaque fois qu'on est en action, prier que le Seigneur nous mette vraiment l'amour pour les âmes, prier que le Seigneur nous mette... de les aimer au point de nous offrir, de nous offrir pour eux. Quoi. C'est ça qui compte pour le Seigneur. C'est ça qui a permis le salut par Jésus. C'est ça qui continuera toujours à ouvrir la porte du salut pour tous les autres plus tard. Nous avons cité des exemples. Il y a les Gulshan Esther, voilà, qui a quitté la richesse, qui a quitté les millions de son père, parce que Jésus l'avait guérie, elle était paralytique, elle a été guérie totalement. Elle savait qu'en confessant Jésus, elle perdait tout son héritage, mais elle a confessé Jésus devant ses frères. Elle a perdu tout son héritage, mais Dieu a agi. Sa sœur s'est convertie, son frère s'est converti. Dieu a fait des merveilles, beaucoup de gens se sont convertis, et jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à se convertir à travers son témoignage à elle. Ce sont des gens, Esther et Gulshan, ne s'est jamais marié. Je parle toujours de ça parce qu'il faut vraiment comprendre que Dieu peut toucher vraiment, parce que je sais qu'aujourd'hui même, il y a des chrétiens qui sont là à courir après les histoires de biens matériels, mariage, toutes ces choses de la terre. Quand Dieu nous les donne, on l'accepte. Mais comprenons que Dieu peut amener quelqu'un à ne pas se marier parce qu'il se consacre à sauver les âmes. Ce sont des réalités que des chrétiens avant nous ont vécues. Paul Edmé Cottier, dans les années 20, une Suissesse qui va en Angola sauver... vous savez, les années 20, il n'y avait pas l'électricité comme il y a aujourd'hui. Hein, voilà. Donc elle va en Angola sauver les gens. Et elle était comme Jackie, donc à peu près pareil. Et Dieu a agi puissamment. Donc c'est possible aujourd'hui qu'on ait des témoins, des gens qui mettent en berne leur diplôme pendant 10 ans, 20 ans pour sauver les âmes. Et voilà, c'est possible. Dieu attend des offrandes pour le salut des âmes. Nous ne devons pas ignorer ça. C'est une réalité. Et nous voyons, donc nous pouvons faire cette comparaison, les enfants d'Israël sortent d'Égypte et nous aussi nous sauvons les âmes du monde. Après, il y a un parcours à faire, ce n'est pas l'objet de notre étude biblique, ce parcours-là. Le parcours, on verra ça dans une autre étude, mais le Seigneur veut qu'on se concentre sur le salut des âmes.
Oui, en fait, je voudrais juste confirmer ce que tu viens de dire par rapport à l'évangélisation. Je crois que avant de s'engager dans cette démarche-là, on doit s'interroger soi-même et on doit demander à Dieu de nous examiner et de nous accorder la compassion. Parce que si on n'a pas la compassion, ce qu'on va faire, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous convaincre nous-mêmes ou pour montrer peut-être aux autres qu'on est actif. Et si le Seigneur ne nous donne pas cette compassion qui vient de lui, on ne pourra pas véritablement accomplir son œuvre. Et face à certaines situations auxquelles nous serons confrontés, on peut perdre courage, on peut perdre notre sérénité et peut-être agir différemment. Et je crois que la prière, plutôt le conseil que je vais nous donner à chacun de nous, moi aussi j'étais comme ça avant, et bon, c'est vrai que ça fait des années j'ai reçu le Seigneur, mais ce n'est que très très tardivement que j'ai compris que pour faire de l'évangélisation, il faut vraiment être en phase avec le Seigneur, avoir les mêmes sentiments qu'a le Seigneur pour pouvoir mener cette œuvre-là. Si on n'a pas ce sentiment-là, c'est une perte de temps. Et ce n'est qu'il y a quelques années que j'ai compris cela. Et la prière que nous devons faire, c'est de demander à Dieu d'augmenter en nous l'amour de ces personnes, de les voir comme lui, il les voit. Donc, c'est juste la confirmation de ce que tu as dit et le conseil que je nous donne. Je suis concerné et je continue à faire cette demande au Seigneur aussi, que le Seigneur augmente en moi la compassion, que le Seigneur augmente en chacun de nous la compassion, car ce que le Seigneur attend de nous, qui sommes chrétiens, c'est l'évangélisation, tout simplement. Le Seigneur n'attend pas autre chose, c'est juste de l'évangélisation. Amen.
Voilà. Et j'ai encore cette histoire de Jackie qui est parti visiter un prisonnier qui était un chef de la mafia, un mafieux, quelqu'un d'important dans la mafia, mais qui avait été arrêté. Elle lui a reparlé encore du Seigneur parce que ce n'était pas la première fois. Le monsieur a encore dit non. Quelques années plus tard, elle rencontre le monsieur en chemin. Le monsieur est devenu pasteur. Mais il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, à notre dernière rencontre? Tu m'avais dit encore non. Le monsieur a dit, mais quand tu es reparti, j'ai vu que tu étais triste. Je me suis posé la question, comment tu peux être triste par rapport à mon salut, à moi, mais toi tu es triste. C'est ça qui m'a amené à me convertir. Donc il a vu que la dame, c'est comme si elle avait perdu quelque chose du fait que lui ne s'était pas converti. Elle dit, mais comment elle peut m'aimer autant? Pourquoi elle est si attachée à mon salut? Et cette question-là l'a amenée à prendre au sérieux les choses et à se convertir. Donc c'est cette attitude-là d'abandon que nous devons avoir. Parfois, on peut avoir la logique des résultats. On a parlé 10 ans, on a parlé 8 ans, il n'y a rien eu. Mais ça, c'est la logique des résultats. L'amour ne va pas avec les résultats. L'amour, c'est l'amour. L'amour est inexplicable. L'amour est inexplicable. Nous voyons des parents s'attacher à un enfant qui est soit handicapé, soit bandit, escroc. Mais c'est l'amour n'a pas d'explication. Et voilà, maman aimait toujours son enfant. C'est ça l'amour. Il n'y a pas d'explication. Et quand les choses sont liées au résultat, ce n'est pas vraiment l'amour. L'amour n'est pas lié au résultat. L'amour se donne. C'est tout. Voilà. Il n'attend pas le résultat, il se donne. Et quand quelqu'un évangélise dans l'esprit de résultat, eh bien, c'est un blocage. Il n'y a pas... Parce que... Au fait, il va pour un résultat, mais il ne va pas donner. Voilà, il ne va pas donner. Il ne va pas se donner, mais il va pour un résultat. Vous imaginez, quand Jésus allait à la croix, il savait bien que c'est pas tout le monde qui allait se convertir, même d'ailleurs que la minorité se convertirait. Mais il a fait pour toute l'humanité, sachant bien que seule la minorité se convertirait. C'est ça l'amour. Il le fait pour tous, même si c'est qu'il n'y a que peu de personnes qui vont se convertir. Donc soyons dans cette attitude-là. C'est ça la racine de l'évangélisation, le sacrifice, l'offrande. Et rappelons-nous tout ce qu'on a dit par rapport à la dureté du cœur humain, par rapport au jugement de Dieu, ça va ensemble. Voilà, sachons que le jugement est là. Donc c'est pourquoi aussi nous devons évangéliser. C'est important. Nous devons annoncer à tout homme que Dieu veut sauver. Dieu veut nous amener au paradis. Voilà les racines. Et après, bien sûr, nous connaissons l'histoire d'Israël. Il fallait aller à la terre promise. Après, il y a une étape jusqu'au paradis final. Cette étape-là doit être vécue dans la foi. Et la terre promise, c'est pour nous aujourd'hui le fait d'entrer dans les promesses de Dieu par la foi à chaque fois. Donc un chrétien devra maintenant marcher conformément, dans l'attente de voir les promesses de Dieu s'accomplir, et il doit mettre foi en cela chaque jour. C'est comme ça qu'il vit dans la victoire. Oui.
Oui, le fait d'être agacé, de répéter toujours la même chose à une personne, Dieu veut, voilà, et la personne, tantôt oui, tantôt non, tout ça, le fait d'être agacé, c'est qu'on n'a pas, encore l'amour de
la compassion. Non, ce n'est pas qu'on n'a pas l'amour, on peut avoir l'amour, mais notre chair agit toujours, et quand on est agacé comme ça, on demande pardon à Dieu, et on demande au Seigneur de nous remplir de son amour. Voilà, donc on a laissé notre chair agir parce que c'est pourquoi on fait ces enseignements, pour qu'on écarte l'histoire du résultat. Parce qu'on est agacé, pourquoi? Parce que j'ai parlé 10 fois, il n'y a pas de résultat. C'est ça. Quand les disciples disent à Jésus, on a prêché dans cette ville, ils ne se sont pas convertis. Envoyons, prions pour que le feu tombe sur eux. Donc Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc vous n'avez pas compris que moi je suis venu pour sauver. Je suis venu donner ma vie, je ne suis pas venu envoyer le feu. Mais un jour, le feu viendra. Mais pour le moment, je suis venu. Donc, l'évangélisation, c'est d'abord se donner. Le jugement vient après, mais d'abord, la priorité, c'est s'offrir. C'est cela. Mais c'est souvent la logique du résultat qui amène l'énervement. Mais quand on est dans la logique de s'offrir, on n'est pas énervé parce qu'on s'est offert, on s'est donné. Voilà, maintenant, on laisse Dieu agir. Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. On sait que l'esprit de Dieu va agir. Donc on est tranquille, on a fait ce qu'il fallait, on laisse maintenant l'esprit de Dieu agir. Mais ce que j'ai relevé par rapport à Jackie, ce n'était pas l'énervement, c'est la tristesse. Donc quand tu aimes quelqu'un, voilà, tu veux le voir sauvé, voilà, il y a une sorte de tristesse qui vient. Ah, ça n'a, il n'est pas toujours encore sauvé. C'est une tristesse dont on a besoin pour crier à Dieu. On a besoin de ça. Voilà. Quand on est pris par cette tristesse, on dit « Seigneur, fais quelque chose ». Voilà. C'est cela. Donc, que Dieu soit béni. Donc, nous allons continuer avec un autre dossier sur l'évangélisation la fois prochaine. Donc, on s'arrête là pour les racines de l'évangélisation. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, ta bonté, ta bienveillance. Merci de nous avoir appris la logique du sacrifice, de l'offrande, afin de voir les gens autour de nous sauvés, libérés, que nous laissions le jugement à toi, Seigneur, mais que nous puissions nous offrir. Viens, Seigneur, nous conduire et que nous ne puissions pas nous contenter d'un salut d'adhésion, mais d'un salut, mais rechercher dans chaque personne le salut de la transformation intégrale, totale, le salut total en Jésus. Seigneur, aide-nous à travers notre comportement et notre témoignage à produire la différence de potentiel qui va faire que les gens vont avoir soif de toi, ils vont crier à toi, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus, Père éternel. Nous nous attendons à toi afin que tu crées en nous l'esprit d'amour, Seigneur. Un cœur rempli d'amour pour les humains, quels qu'ils soient. Que nous ayons les mêmes sentiments que toi.
dans le nom de Jésus. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.